Kiosque Magazine.
Et bon matin à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi Kiosque Magazine pour l'édition Culture et Loisirs. Nous sommes le 6 février et je suis en compagnie de Geneviève Patterson et Charles Leroy. Comment est-ce que vous allez?
Très très bien, merci.
Salut Jennifer.
Alors, de quoi est-ce que, Geneviève, justement, tu vas nous parler aujourd'hui?
Je vous parle surtout de musique. Il y a deux nouveaux albums qui sont sortis, qui vont sortir prochainement. Et je vous parle toujours le petit côté gourmet. Il y a de belles découvertes culinaires à faire.
Oh, on a hâte d'entendre ça. Et toi, Charles?
Je vous en dis pas plus. Bon, OK, c'est correct. Moi, je vais vous parler de Brou, la fameuse pièce de théâtre qui détient le record du monde de la plus nombreuse représentation, avec la même distribution. La guerre des tuques, c'est un film que tout le monde connaît. Ben, c'est amené au théâtre, pas pour la première fois, par contre, mais si vous avez l'occasion de vous déplacer à Québec, ce sera en représentation. Le nouveau film mettant en vedette Alexandre Landry, qui s'intitule L'amour, j'ai oublié son nom. Alors, je vais vous le dire tout à l'heure. Pardon?
Un peu de suspense, voilà. Ouais. Pendant
Moi, je vous mets l'eau à la bouche. Aussi, avec les découvertes culinaires, on vous fait plein de surprises aujourd'hui.
Ah, ben, c'est l'amour au temps de la guerre civile, voilà. Et aussi, Sophie Kahl et Simon Starling sont les artistes vedettes de la nouvelle exposition du Musée d'art contemporain de Montréal.
D'accord. Et pour ma part, je vais vous donner la programmation du Festival de Montréal en lumière, qui va donner son coup d'envoi dans quelques jours. Mm-hmm. Également, on partira à la découverte du troisième album de Charlie Winson, un album plus personnel et introspectif. Puis dans Le Blanc des Yeux, c'est le nom du spectacle que nous propose Sylvain Larocque, qui se sert de l'humour comme véritable bouclier contre ses démons intérieurs. Et enfin, je parlerai d'une exposition d'Olivier Wilmer Picasso, le petit-fils de Pablo Picasso, qui va exposer jusqu'en mars à Montréal. Voilà, je vous en dis plus en deuxième partie d'émission.
Tout à l'heure, Charles nous parlait de La guerre des tuques qui a été produit par la boîte de production Contes pour tous. Mm-hmm. Et bien maintenant, c'est Jean Leloup qui continue avec des contes, cette fois des petits contes électriques. Okay. C'est le titre de l'article, de l'entrevue en fait qu'il a accordé au journal Métro cette semaine. Une entrevue par Claude André. Oui, Jean Leloup se porte à merveille et son À Paradis City est à la hauteur des attentes. On entendait toutes sortes de propos sur le loup ces dernières années, et il est vrai que ceux qui le croisaient dans les rues du Mile End et certains de ses amis se faisaient du souci au sujet de son rapport au paradis éthylique. Mais c'est maintenant chose du passé, il ne picole plus depuis 2 ans, et nous sommes là dans ce petit appartement où il peut fumer et parler de À Paradis City, son 8e album qui ressemble à un bilan BDS-que tant par les orchestrations à la Ennio Morricone.
Oui. Okay. Jolie prononciation. Ben oui. C'était parfait.
Ou Velvet Underground, que par les protagonistes qui pourraient sortir tout droit des rubriques à braque de Gottlieb. On pense à Retour à la maison où une guitare, selon une note explicative envoyée par le loup, rentre à la maison après une énième détox. À Willy, où un vieil alcoolo dresse son bilan avant de se suicider. Ou encore à l'hyper-accrocheuse Petit Papillon, dans laquelle une jolie fille pourchassée par la mort finit par la tuer. Jean Leloup dit « Quand je l'ai composé, ça a été la dernière et j'ai crié « Eureka ». J'étais vraiment content car je n'avais pas réussi à composer une toune de ce genre-là. » L'artiste a glané dans ses souvenirs de rencontres et de voyages les 10 dernières années, des voyages qu'il a fait notamment à Panama et au Costa Rica, pour créer cet album où les scènes ou les chansons auraient été imaginées avant le scénario. Et puis, à un moment donné, Jean Leloup dit qu'il avait acheté du matériel pour se faire un petit studio et que j'étais malheureux. Je me suis dit, j'aurai des tounes quand j'en aurai. Puis, j'ai cherché à faire d'autres choses dans la vie, puisque je n'ai jamais vu la chanson comme un métier. J'ai essayé d'acheter une montagne en Amérique centrale pour en faire un parc naturel dans lequel seraient protégés les gorées. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Et ensuite, il voulait importer du cacao biologique. Il a tenté d'être auteur de nouvelles, puis il a voulu jouer les documentaristes et faire le tour du monde pour interviewer les gens. Donc, c'est ce que le loup explique à Claude André dans le journal Métro. Et pendant ces pérégrinations-là, il a rencontré des gens qu'il qualifie de surréalistes pour s'en inspirer et en faire des chansons. Donc, finalement, tous ces détours-là...
C'est une immense démarche, finalement.
Exactement, une immense démarche créative. Ouais, donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mm-hmm. Donc, les chansons qui ensuite se sont retrouvées, dit-il, dans un sac Glad, où après un prix, elles sont devenues un disque.
Ben voilà.
Et puis, ce qui s'est produit avec la pièce-titre « À paradis, c'est dit », c'est un texte d'une quinzaine de pages à l'origine. Et 2 ans plus tard, il est arrivé un autre texte qui semblait lui répondre. Un peu comme s'il s'agissait de petites nouvelles qui s'assemblaient l'une avec les autres. Et puis, Jean Leloup a enregistré des versions électro, puis il a appelé des amis musiciens pour finalement créer cette 8e livraison dont il ne sait pas encore à quel moment il sera présenté sur scène, mais qui demeure sur le plan du questionnement philosophique très frontal. Oui, depuis un bout de temps, je suis pas mal dans mes questions fondamentales auxquelles je ne parvenais pas à répondre. J'ai déjà été très fâchée contre des choses qui me révoltaient, mais maintenant, je suis juste désolée. Finalement, ça a l'air qu'on est là pour apprendre, et ce qui me rend heureux, je peux pas m'empêcher de penser que je vais encore pouvoir plonger dans un lac et regarder la nature avec des amis proches. L'album est en magasin dès mardi.
Les chiens aboient, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens aboient, et Willy, le vieux Willy, écrit. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue ma tristesse et mes ennuis. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue mes fucking soucis, j'ai raté ma vie. Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de seconde. Elle ne tient qu'à un fil, notre place dans ce monde. Au détour d'une peine, je me suis égaré. Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée. Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle. Encore le labyrinthe, le destin qui m'esquinte. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Ne soyez pas trop triste pour la fin de ma piste. Tous mes os me font mal, ils m'attaquent en chacal, en combat inégal. Ouch! De démons, de fantômes en sommeil, se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles? Je suis si vieux, et où sont mes petites vieilles? Pour ma part, il me tarde de partir en voyage, quitter cette famille de terreur qui fourmille. Les chiens aboient, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Au loin, les flammes. Au loin, les flammes.
Hein, regardez là-bas, c'est la cabane à Willy.
Au loin, les flammes.
Ça brûle.
Et au vent qui en aimera la fumée de ma cabane en bois, je lègue ma philosophie et aussi toutes mes idées de génie.
passant qui passera, je te lègue ma porte au bas. Je te préviens tout de suite, l'amour n'existe pas. Au loin les flammes, au loin les flammes, au loin les flammes, au loin les flammes.
Et Geneviève, tu nous en parlais, on vient d'entendre Jean Leloup avec sa chanson Willy.
Ben Willy, c'est une chanson qui a été publiée juste avant la sortie de l'album pour mettre l'eau à la bouche aux fans de Jean Leloup. Et c'est une chanson qui est sortie en version karaoké avant. Oui, ça fait que c'était très drôle. Là. Vous pouviez voir ça sur Internet, là, puis chanter, puis même jouer. Il y avait des accords. C'était incroyable.
Très original comme lancement.
C'est vrai. Alors, il n'y a pas que Jean Leloup qui revient sur scène. Il y a un certain Vincent Vallière qui, lui, bravera le froid le 19 février pour donner le coup d'envoi extérieur au festival Montréal en lumière. Sur la scène située au nord de la place des festivals, c'est Jessica Edmond Ferrat qui nous en parle dans le journal du Métro. Le lendemain du concert de Vallière, cette scène accueillera le trio trad de temps en temps, alors que Brigitte Boisjoli viendra réchauffer l'atmosphère hivernale le samedi 21 février. La Suisse étant le pays à l'honneur pour cette édition du festival, l'artiste suisse Eliana Burki viendra jouer de son corps des Alpes le lendemain, soit le dimanche 22 février, mais à 17h, alors que les trois concerts mentionnés plus haut se tiendront à 20h. Pierre Quenders, dont l'album Le Dernier Empereur Bantou est en nomination pour le Juno du meilleur album de musique du monde, en offrira les pièces le 25 février, et la chanteuse Inuk Elisapi sera au programme le 26 février. Pour sa part, le groupe Randon Recipe montera sur la scène le vendredi 27 février. Dans le cadre de la Nuit Blanche, ce sont les gars de Mister Valère qui offriront le concert extérieur du samedi 28 février. Chaque soir, des DJ et VJ s'occuperont par ailleurs d'animer les fins de soirée. Au nombre des activités gratuites cette année, on notera qu'une tyrolienne s'étendra de la place des festivals jusqu'à la rue Saint-Urbain. La 16e édition de Montréal en lumière se tiendra du 19 février au 1er mars.
Toujours en musique, il y a Claude Bégin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le groupe hip-hop Acrophone, il y a aussi À la claire ensemble.
Oui, À la claire ensemble, oui.
Alors, Claude Bégin a longtemps collaboré avec ces groupes-là et il a aussi collaboré à l'album Fox de Karim Ouellet. Mmh. Et bien maintenant, il présente son premier album solo en 10 ans de carrière qui s'intitule Les Magiciens. Mmh. Alors, c'est un article de Marilyn Chartrand dans le journal 24 heures du week-end passé, donc du 30 janvier au 1er février. Les astres se sont alignés. Il a fallu que je me libère de plusieurs projets pour faire mon album. J'avais des délais serrés avec ma maison de disques, comme j'étais censée faire ce projet depuis 4 ans. C'est ce qu'explique Claude. Et le succès qu'il a obtenu par Karim Ouellet avec son dernier opus a fini par convaincre Claude Bégin, de se lancer en solo. Au final, âgé de 31 ans, il est content d'avoir attendu aussi longtemps pour faire le grand saut. Il y a une certaine maturité que j'ai dans ma vie en ce moment qui m'aide à passer à travers du processus, c'est ce qu'il fait remarquer. Et pour son nouvel opus, l'auteur-compositeur-interprète a établi son quartier général dans sa chambre.
Tout simplement.
Et pour ce faire, l'artiste a inventé quasi simultanément la musique et les paroles, privilégiant la méthode de l'improvisation pour trouver ses mots. Ça peut être justement un bon processus de création. Intéressant. Mmh. Et puis, j'ai dit, je commence une musique et je chante un peu n'importe quoi dans le micro, qui me semble être intéressant, et je n'ai pas de cahier de texte. Ainsi, Les Magiciens est un album créé du début à la fin par une seule personne, si ce n'est de l'apport d'une violoncelliste, d'un trompettiste et de sa sœur, pour chanter certains chœurs. En résulte donc un album aux influences métissées, alliant le pop, le rock, le folk et le soul. Né dans une famille d'artistes, Claude Bégin fait figure d'ovni. Il gagne sa vie depuis 10 ans avec la musique sans savoir lire une partition. Donc, c'est vraiment un autodidacte qui improvise. J'ose croire que le titre de l'album, Les Magiciens, ça porte bien son nom, justement. Il a vraiment créé quelque chose.
À partir de rien.
À partir de rien. Il y a des accords et des tournures dans ma musique qu'il est impossible de faire quand tu connais ton solfège. C'est des trucs d'aveugle. C'est un peu comme l'aveugle qui écrit des livres. C'est ce que Claude exprime dans l'article. Et originaire de Québec, c'est dans sa famille natale qu'il a lancé son album le 4 février dernier. Et puis, donc l'album est en vente. L'album est en vente à partir du 3 février et Claude va être en spectacle le 28 février prochain au Métropolis dans le cadre de Montréal en lumière.
Est-ce que, Jennifer, tu connais Brou, le spectacle Brou? Est-ce que tu en as entendu parler?
J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas et j'ai hâte de savoir un petit peu de quoi il s'agit.
Parce que ce spectacle-là, c'est un spectacle mythique ici au Québec et il a en fait tourné dans plusieurs pays, fait que peut-être que tu n'aurais entendu parler. Ben c'est Yves Bergerat dans le droit qui nous en parle, qui va peut-être t'en apprendre un peu plus. C'est paru le 31 janvier dernier. Brou, cocktail d'humour et d'amertume. Pièce mythique au succès jamais démenti depuis presque 36 ans. Brou roule quasiment depuis l'ère glaciaire, portée par les trois mêmes hommes des tavernes, Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier. À nouveau en tournée générale, le trio propose ses shoppings au théâtre du Casino du Lac-Mé du 5 au 7 février. Ça va faire 36 ans le 21 mars. Il n'y a pas eu une année où on n'a pas fait un minimum de 50 représentations et les salles sont pleines à chaque année, continue de s'étonner Marc Messier. Alors, il en profite tant que ça dure. Au lendemain de notre entrevue, le Casino lui donnait raison en annonçant des supplémentaires pour le 18, 19 et 20 février 2016. Mais ça vous donne une idée là, à quel point c'est en demande. Le trio a envisagé de mettre un point final à l'aventure en 2014, en décembre, donc tout récemment. Mais avant de se raviser, on est en santé, on a du plaisir, ben pourquoi s'arrêter, dit-il. Hein? Le succès perdure, mais la pièce a évolué, note toutefois Marc Messier. En 79, le second degré de Brou, qui explore certains aspects sordides des tavernes, était flagrant, dit-il. Ce qui est presque paradoxal, c'est qu'avec le temps, la pièce est devenue plus réaliste. Avec l'âge sont venues les rides, leurs bières ont gagné en amertume. On est devenus ces personnages, et le deuxième degré est moins évident. À présent qu'ils font des économies de maquillage. La taverne est un prétexte intéressant pour le mécanisme du rire. Le fait que ça se passe dans un débit de boisson a donné place au délire, analyse Marc Messier. Mais pour vous donner une idée de ce spectacle-là en chiffres, en 79, le 21 mars, ça a été la première au Théâtre des Voyagements et la pièce a accueilli 80 spectateurs. C'est pour vous dire que hein, quand ça démarre petit, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller gros. Et trois ans plus tard, après 300 spectacles donnés à guichet fermé, les trois compères fondent la compagnie Production 3M qui vont produire les spectacles pour tout le reste. Et la même année, le spectacle est présenté au Canada en anglais sous le titre de Brou jusqu'en 84. En 2006, ils détiennent le record Guinness de la longévité du spectacle avec la même distribution de comédiens. Et à ce jour, en janvier 2015, le spectateur se dénombre au compte de 3,3 millions. Mais pour y aller, pour faire partie de ce grand nombre, c'est au Théâtre du Casino du Lac Lémé. C'est le 6 et le 7 février à 20h. Les informations au 1-877-977-7970. If you say this is pop, singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery, but
whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end, the end. All the girls kick the bucket in the end, the end. And the boys kick the bucket in the end, the end. Yep, we all kick the bucket in the end, the end, the end, the end, the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people. Oh, feeling afraid of the same thing, but there's nothing to lose. Cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries. But you gotta keep a coming and live it to love it, and live and love life. Cause we all keep the bucket in the end, the end. All the girls keep the bucket in the end.
Et nous venons d'entendre Kick the Bucket de Charlie Winson. Et justement, je m'apprête à vous en parler tout de suite, car après nous en avoir de toutes les couleurs, Charlie Winson délaisse les grandes prouesses scéniques pour nous livrer un troisième album plus personnel et introspectif. C'est Michael Olivier Harding qui nous en parle dans le métro du jeudi 5 février. En 2009, l'auteur-compositeur britannique Charlie Winston ne s'attendait pas à cartonner en terre française avec son single de folk-pop bohème « Like a Hobo ». Depuis, ce sympathique trentenaire, repéré très jeune par l'influent Peter Gabriel, sillonne la planète en vrai showman, en plus de devenir une des muses de Jean-Paul Gaultier. Mais avec son troisième album, « Curiosity », lancé le 26 janvier dernier, Winston marque un réel tournant dans sa carrière. Vivre un énorme succès musical est une expérience émotionnelle très intense. On en apprend énormément sur la vie. En très peu de temps, on découvre comment dire non et on comprend ce que c'est que d'être seul avec soi-même. Tout ça m'est arrivé et je n'avais pas encore eu l'occasion de réfléchir sur la façon dont les changements s'étaient précipités dans ma vie. Je ne suis plus le même gars qu'avant et il aurait été malhonnête de ne pas témoigner de cette transformation dans l'album. Winson avoue d'emblée que le processus créatif fut semé d'embûches, lui qui s'était promis de retourner à Londres et de renouer avec ses racines anglaises après plus de 4 années passées en France et à l'étranger. Il s'est acheté une maison, s'est construit un studio dans le sous-sol et s'est vite retrouvé en panne totale d'inspiration. Il ne me restait plus rien à dire après le dernier album. Mon inspiration était tarie. J'ai voulu atténuer l'aspect plus théâtral de ma musique, ne plus m'appuyer sur ce personnage plus grand que nature que les gens associaient au nom Charlie Winson. J'ai donc passé les 6 premiers mois à imaginer cette nouvelle direction encore indéterminée vers laquelle je souhaitais me diriger. Alors que ses albums précédents avaient été nourris de ce personnage improvisé, créé un peu à l'image de Tom Waits, une influence prépondérante sur son œuvre, il voulait que Curiosity soit plus honnête et introspectif et s'orienter vers des sonorités plus contemporaines qui colleraient plus avec son vécu. Il avoue avoir puisé dans le bassin de jeunes talents anglais, plus précisément dans les moments de silence qui ponctuent l'électro-atmosphérique de James Blake, et le minimalisme envoûtant d'Alt-J. Je voulais inclure de petits intermèdes dans mes chansons à l'image de ces deux formations britanniques. Je voulais avoir l'impression de créer des paysages sonores au lieu d'inonder l'album de ma voix. Ce projet m'a permis de faire un croisement entre l'acoustique et l'électro.
Dans un futur pas si lointain, le rocher Percé et ses 134 habitants viennent d'être détruits par un tsunami. Baie-Comeau a été rayé de la carte. Les États-Unis ont régressé à l'état de pays sous-développé. Ben, c'est ce qui se passe dans la pièce La guerre des Tucs, une pièce de Fabien Cloutier. Je vous assure, c'est pas la réalité. C'est Isabelle Hood qui a imaginé ces mots-là dans le soleil. La guerre des Tucs, jeu d'adulte, paru le 30 janvier. Dans ce Québec post-apocalyptique, oui, tout tourne un peu étrangement. Une chienne Saint-Bernard, Cléo, se met en frais de nous raconter une histoire. C'est que son maître, Pierre, la néglige depuis pas mal de temps, depuis qu'elle est bébé, en fait. Elle introduit tour à tour François les Lunettes, Chabot, Tijacques et Luc Chicoine, son clairon. Ça commence à sonner une cloche, les têtes d'affiche de La guerre des Tucs, le film culte réalisé par André Melançon. Les premiers de la série des Contes pour tous sont bien là. L'adaptation théâtrale délirante que Fabien Cloutier a concoctée il y a 2 ans avec le théâtre Sous Zéro fonctionne toujours aussi bien. Chose certaine, le plaisir que j'avais éprouvé à l'époque a été renouvelé jeudi au Musée national des beaux-arts du Québec où sera présentée cette pièce. Déjà, la formule du théâtre Sous Zéro qui place le spectateur bien au chaud dans un auditorium pendant que les acteurs jouent au grand froid dans la vraie neige, ça a un charme unique. Évidemment, la vision n'est pas parfaite en tout temps à cause des montants et des grandes fenêtres, mais juste pour le plaisir et le réalisme que ça donne à la proposition, on imagine mal que le projet ait pu prendre naissance ailleurs que dans cet environnement naturel. La bonne sonorisation aide aussi à la réussite. Cette pièce, donc c'est La guerre des Tucs, est présentée jusqu'au 8 février, dépêchez-vous, à l'auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec. Juste avant de se laisser pour la pause, voici quelques petites brèves. Je vous convie toutes les deux à des salons. Pour toi, Geneviève Gourmande-Patterson, je t'invite au salon « Je t'aime en chocolat ». C'est au marché Bon Secours. C'est jusqu'à dimanche. Donc, il y a plein d'activités gratuites. Et l'entrée aussi est gratuite. Et pour toi, Jennifer Voyage Vignerie, je te convie à la Place Bonaventure. C'est le salon du bateau et des sports nautiques. C'est jusqu'à dimanche aussi. Dans le fond, il y a 450 modèles qui seront exposés. On se laisse le temps d'une courte pause et on revient.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission. Et écoutez, nous sommes le 6 février, c'est donc à une semaine près, je crois, bientôt la Saint-Valentin.
Oh là là!
Et bon, il n'y a qu'un seul garçon autour de cette table. Alors écoute, Charles, parle-nous un petit peu d'amour, s'il te plaît.
Bon, ben c'est pas une belle histoire d'amour, en tout cas, que j'ai à vous conter. Je suis désolé,
mais... Ça reste une histoire d'amour, au moins au début.
Exactement.
Fais-nous un petit peu rêver,
ben oui,
s'il
oui,
te
oui,
plaît.
Oui.
L'amour!
Ben, en fait, le film dont je vais vous parler, c'est l'amour au temps de la guerre civile, mais l'amour au temps de la guerre civile. ça prend l'affiche aujourd'hui. C'est un article paru dans Le Soleil, un article d'Éric Moreau, Alexandre Landry, Métamorphose. Ça a été écrit le 1er février. Alexandre Landry en a épaté plus d'un avec son premier rôle au cinéma dans Gabriel en 2013. Son interprétation de Martin, qui lui a valu des prix, a fait croire à plusieurs qu'il était vraiment un déficient intellectuel. Dans L'amour au temps de la guerre civile, le talentueux acteur de 29 ans se métamorphose en accro du crack et prostituée occasionnelle. Donc, je vous dis, là, c'est ça, c'est pas tout à fait là, un film romantique. Il est confondant de véracité dans ce film coup de poing écru de Rodrigue Jean. Un rôle dur sur le plan psychologique et très physique qui m'a beaucoup apporté humainement, révèle-t-il en entrevue. Québec n'est pas Hollywood. Alexandre Landry ne s'est pas soumis au même phénomène de transformation extrême que Matthew McConaughey, qui a été oscarisé pour le Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, mais il a tout de même arrêté de s'entraîner à la demande du réalisateur pour perdre de la masse musculaire. Il a fait ses devoirs en rencontrant des travailleurs du sexe dans la rue et ceux associés au projet de Rodrigue Jean. Ce dernier a réalisé un remarquable documentaire sur la question en 2008, donc il savait de quoi il parlait. Pendant le mois de tournage, il a arpenté les rues enneigées de Montréal à peine vêtu. on n'est vraiment pas à plaindre, s'empresse-t-il de commenter. Les gens de la rue vivent ça tous les jours. C'était difficile, mais ce n'était rien. Les multiples relations sexuelles qui sont montrées sans pudeur n'a pas indisposé l'acteur. Il y a une part des scènes de lit, dit-il, qui est de la danse, de l'instinct qui se fait dans l'élan. À part la confiance qu'on doit avoir dans le réalisateur et l'autre comédien. Ces étreintes animales témoignent d'une autre réalité que celle de la moyenne des gens. Dans ce milieu où tu vends ton corps, l'amour est le sentiment... l'amour et le sentiment d'intimité, c'est pas du tout la même chose quand tu es avec un partenaire régulier. Ce sont des zones moins bien définies pour eux. Ça fait partie de la beauté du film. Alex, dans cette même scène, peut inviter une personne à la voler et à l'aimer. Ça se joue toujours entre le couteau et la caresse. On aura compris, l'amour au temps de la guerre civile s'inscrit dans une démarche artistique plus radicale. On n'a pas fait d'argent, souligne l'acteur. On ne l'a pas fait pour l'argent, oui, bien sûr, souligne l'acteur. La présence du film au Festival de Toronto, le TIFF, en première mondiale, devient, devant une salle comble, m'apporte des opportunités, raconte-t-il, mais là où on gagne le plus, c'est sur le plan humain. Alors, c'est à l'affiche aujourd'hui, l'amour au temps de la guerre civile.
L'équilibre parfait des trois éléments de base. Moi, c'est sur la classique que je fixe mon choix. Je fais pas partie des excentriques qui rajoutent des petits poids. Dans la pente insoutenable du suprême gueuleton, tous autour de la table posent l'ultime question. De quel coin de la terre vient ce délice de maestro? Les opinions diffèrent, trois mondes vilains victo. Puis le festin arrive avec sa fourchette en plastique. Enfin, sous la gencive, le fromage fait quick quick. Et si la décence invite à déguster lentement son bol, faut quand même faire sa vie avant que les frites viennent molles.
Patates, sauce, brûlée, fromage, forme d'un puissant alliage. C'est comme manger une livre de beurre, mais Montignac nous fait pas peur.
Ah, quelle joie de savoir que partout au Québec, à la même heure, chaque soir, l'expérience se répète. Des épaves débibées, noyer l'alcool dans le grévé et le ventre ballonné en rotant. On rêvait de
patates. dommage, c'est en descendant. Quel dommage, à table sauce brûlée et fromage, une part de notre héritage. À table sauce brûlée et fromage, nous te rendons cet hommage.
Ah, Rémi, t'as oublié le engrain final de la chanson, mais c'est pas grave. Non, c'est vraiment
un
petit détail.
On était à fond, là.
On était dans la musique. Bon, ben, vous venez d'entendre Hommage en grain de mes aïeux et ça introduit bien, Geneviève, ton article.
Oui, et puis tu as vu juste tout à l'heure Charles en me surnommant gourmande, car c'est connu, je suis gourmande, mais aussi gourmet. Alors, il y a quelques temps, et il y a quelques temps, je vous parlais de hot dog, et maintenant, c'est le temps de la poutine, car c'est la semaine de la poutine.
Tu fais de plus en plus léger dans les choix de...
Oui.
J'ai peur pour la semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
L'événement se poursuit à Montréal et dans plusieurs autres villes du pays. Ça a lieu simultanément à Québec, Sherbrooke, Ottawa et Toronto jusqu'à demain. Donc là, c'est vraiment le temps d'aller découvrir les différentes poutines. Et il y a un article dans le 24 heures de lundi passé. Oui, lundi le 2 février. 6 poutines à découvrir par Simon Dessureau. Qu'il est allé à l'aventure dans différents restaurants de poutine avec Élise Tastet, qui a 24 ans et qui a livré ses commentaires sur les restaurants de Montréal, par l'entremise aussi de son blog Tastet, donc T-A-S-T-E-T, où il y a plus de 15 000 visiteurs par mois qui fréquentent son groupe de discussion. Et puis, Madame Tastet affirme que tout va mieux dans la vie après que tu as mangé une poutine. J'adore les frites, le fromage et la sauce mélangés ensemble parce que c'est réconfortant. Mmh. Et il y a un total de 45 restaurants de Montréal qui offrent pour l'occasion une poutine créative. Par exemple, une poutine déjeuner ou cabane à sucre. Alors, ces deux poutines-là sont les poutines qui, en termes d'originalité, ont eu la meilleure cote. Parce que ce qu'Élise a fait, c'est que chaque poutine dans l'article, il y a une photo et il y a deux petits cercles. Un cercle, une note pour le goût sur 5 et l'originalité.
OK, OK. Est-ce qu'il y a aussi le facteur diabète aussi? Non?
On a épargné les détails de diabète et de cholestérol parce que c'est vraiment... Okay. On reste dans la gourmandise, dans le côté gourmet. Oui, on se fait plaisir. Oui. On reste dans le plaisir. Alors justement, la poutine déjeuner, elle est servie au restaurant Fabergé situé sur l'avenue Fairmont-Ouest. C'est celle qui a eu une des meilleures notes en termes d'originalité, 4,5 sur 5. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une base de gaufres de pommes de terre croustillantes qui est garnie de canard, fromage et sauce. Et Élise a dit, « C'est quand même gras, je ne mangerais pas ça au déjeuner, sauf pour un lendemain de veille. » Peut-être après avoir rêvé avant le déjeuner, justement. Et puis, c'est un concept impressionnant. Et l'autre, en termes d'originalité, c'était la poutine cabane à sucre de Poutineville sur la rue Beaubien-Est. Il y en a également une sur la rue Ontario. Alors, poutine cabane à sucre, ça explique bien. Jambon fait volard, omelette hachée, sirop d'érable, patate écrasée sur une crêpe et il y a du bacon tempura. Alors, en bon québécois, oui, les oreilles de Christ. Elle dit, c'est très cochon, là. Je me sentais vraiment à la cabane à sucre. Je n'en mangerai toutefois pas une à moi toute seule parce que ça lève le cœur rapidement. Alors, c'est... On peut comprendre. Donc,
j'ai jamais réussi à finir une poutine, moi, depuis que je suis là. Impossible. C'est mon défi.
Eh bien, peut-être que les deux autres poutines, ça serait un défi plus intéressant à relever aussi en termes, justement, gourmet. Ce sont les deux qui ont eu la meilleure note en termes de goût. On parle de la poutine à la morue salée qui est servie à la taverne Ferreira sur la rue Jeanne-Mance. On parle de morue salée, oignons caramélisés, sauce crémeuse, fromage en grains, oui, et zeste de citron. Donc, selon Élise, c'est la poutine la plus gourmet. Elle est très légère et le goût de la morue n'est pas trop salé. Oui. Et puis, bon, la sauce est très crémeuse. Par contre, elle a mentionné que la saveur d'orange la dérangeait un peu. Ça, elle a pas trop aimé. Et par contre, celle qui a eu vraiment la meilleure note en termes de goût et d'originalité reste celle servie au restaurant Les Enfants Terribles, qui s'appelle La Poutine Enfant Terrible. C'est situé sur l'avenue Bernard à Outremont. C'est la préférée de Madame Tastet. Alors, on parle de sauce aux cèpes. Bon, aux champignons, fromage Saint-Guillaume, lard fumé et ciboulette. Donc, d'utiliser le fromage Saint-Guillaume, ça fait une grande différence parce que justement, c'est un fromage de qualité et puis il y a des petits lardons, donc une petite touche un peu plus sophistiquée. Voilà. Donc, 6 poutines à découvrir, c'est jusqu'à demain pour le festival de la poutine, la semaine de la poutine, oui.
Les petits et les grands malheurs, tout comme un handicap physique, peuvent être des sources d'inspiration. Justement, l'humoriste Sylvain Larocque en fait la preuve avec son 4e one-man show dans Le Blanc des Yeux. C'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures du mardi 3 février. Il faut dire qu'avec une séparation, le deuil de sa mère et deux déménagements, ce dernier ne manquait pas de matière pour écrire un nouveau spectacle. L'humour, contrairement aux apparences, ne prend pas sa source dans le bonheur, mais dans le négatif. Ce dernier avoue en dévoiler davantage sur sa vie personnelle avec cette production. Plus tu avances dans ce métier, plus tu vas chercher loin en toi, plus tu es capable de faire de l'introspection, de t'évaluer et de mettre tes tripes sur le billot, explique-t-il. Pour ce faire, Sylvain Larocque a fait confiance à deux amis de longue date. Stéphane Roy signe la mise en scène et Laurent Paquin assure le script édition. Ainsi, Sylvain Larocque prévoit parler dans le blanc des yeux avec son public de sujets tels que le racisme, l'avenir du Québec, son handicap physique et l'intimidation. Ce dernier sujet en est un que l'humoriste connaît bien, ayant été intimidé puis intimidateur. À ce sujet, celui qui gagne maintenant sa vie avec son humour s'en est d'abord servi pour se faire accepter socialement. C'était mon moyen de défense. On peut dire que c'est un lubrifiant social. Je me défendais pas avec l'humour, mais j'évitais de me faire attaquer. C'était plus préventif que réactif, précise-t-il. Sylvain Larocque se voit comme quelqu'un de pessimiste, pour qui le verre est toujours à moitié vide. En ce qui a trait à sa rentrée montréalaise, celui-ci dit être neutre. Je ne m'attends à rien, mais j'ai un bon feeling parce que ma première à Québec s'est très bien placée. À la question « Où se voit-il dans 5 ans ?», Sylvain Larocque reste très terre à terre. J'espère être encore en vie. Si je suis encore là, je serai heureux, dit-il. Et en ce qui concerne notre avenir collectif, celui-ci ne voit pas l'avenir avec des lunettes roses. Je pense qu'il faut se prendre en main, prendre conscience de notre valeur, de nos ressources et les gérer comme il faut. Si on ne le fait pas rapidement, on va tout simplement se faire vendre en pièces détachées, fait-il remarquer. Donc je rappelle le nom de son spectacle, Dans le blanc des yeux, Sylvain Larocque.
C'est avec une méditation sur la vue et la cécité que l'artiste française Sophie Kahl et une réflexion de l'anglais Simon Starling sur la métamorphose que le Musée d'art contemporain a lancé sa programmation de l'année 2015 hier. Caroline Monpetit, dans Le Devoir, nous en parle. Sophie Kahl et Simon Starling pour lancer 2015. Ça a été écrit le 21 janvier dernier. Poursuivant son travail sur la cécité entamée alors qu'elle demandait à des personnes aveugles de naissance quelles étaient la chose la plus belle pour eux, Sophie Kahl a interrogé 7 fois des gens qui sont devenus aveugles d'un seul coup au sujet de la dernière image qu'ils ont vue. Au cours d'une recherche effectuée dans la ville maritime d'Istanbul, elle a aussi capté le regard de citoyens de la ville qui regardaient la mer pour la première fois. Métamorphose. De son côté, Simon Starling présente avec Métamorphologie des créations ayant subi des métamorphoses telles ce bateau muni d'un poêle à bois qui s'auto-consume en se chauffant de son propre bois. Ses œuvres, explique le directeur du musée John Zeppentilli, proposent à la fois une réflexion sémantique, historique, anthropologique, archéologique sur ces objets. Réflexion sur le capitalisme, une autre œuvre, le Long Tongue, compare le poids d'un marbre italien, beaucoup moins lourd que le marbre chinois, mais de valeur marchande comparable. Pour demeurer dans le thème du commerce, le Musée d'art contemporain présente jusqu'au 15 mars un film d'Alan Sekula et Noël Brunch de Forgotten Space, qui propose une réflexion sur le thème des conteneurs, cet outil de transport inventé dans les années 50. L'espace oublié ici nommé, c'est l'océan sur lequel circulent 100 000 navires, soit 90 % du commerce mondial. Et à compter du 28 février, sur les thèmes de la nouveauté et autres obsessions de la collection du Musée d'art contemporain, le musée présentera quelques-unes de ses acquisitions récentes, dont Broken Memory de Geneviève Cadieux et Vault, une œuvre de l'artiste allemand Thomas Demand, qui réfère à une photographie du New York Times. Geneviève Cadieux, quant à elle, s'est également vue confier la mission de sélectionner et de présenter elle-même une exposition à partir de 7800 œuvres du musée. C'est dès le 2 avril 2015. Donc, toutes ces expositions sont à surveiller au Musée d'art contemporain de Montréal.
It was me, myself, and I walking down the street. We were looking around for love, and here comes this fat bean. He say, take my arm, walk a bit, I like your company. I realized how well we fit. He was he and I was she. It was hand in a glove, it was the greatest love. And how we came to wed was the moment when he said, M-I-N-N, won't you rock with me? He said, until the end, where you I wanna be. He said, M-I-N-N, won't you rock with me? I said, oh, yes, baby, I give myself gladly. It was one of them days, you know, when your life's a video. See, everything is extra sharp, and what you see, you can't really know. Well, that's when I saw him,
that's when I saw
walking,
him.
In through the outdoor.
Walking in through the outdoor.
He wore a raspberry hat and wasn't warm, he'd wear no more. He made me stop and turn, and he made my cheeks burn. I had to see where he went. Say this is man. Then he started to dance, and good Lord, he was fine. I said, is this my chance? I want to make him mine. Step back, forth, left, right, and then I saw the light. He stepped back, forth, left, right, and then I saw the light. He said, L-I-N-N, won't you rock with me? I said, until the with you I wanna be. Oh, L-I-N-N, won't you rock with me? I said, yes, baby, I give myself gladly.
Un bon petit son groupe, ça c'était L-I-N-N de Lynn et Freddy. On est gâtés à la radio du Canal M. Merci Rémi pour les belles découvertes musicales. On reste dans les expositions et l'art visuel. Jennifer, une exposition de Picasso.
Oui, et cette fois-ci, c'est pas Pablo. Mort, Picasso. C'est pas Pablo, mais c'est son petit-fils, Olivier Windmaier, j'espère que je prononce bien son nom, qui était à l'hôtel Sofitel de Montréal jeudi pour le vernissage de l'exposition Weaveld, j'espère que je prononce bien, oui. Là aussi également.
Révélation.
Voilà, exactement. Et les 30 photos présentées ont levé le voile un peu sur l'intimité de la création de grands peintres comme Dali, Magritte et Picasso, son grand-père, justement.
Ben, je ne sais pas ce qui se passe avec les petits-fils. Là. Moi, l'an dernier, je suis allé voir le petit-fils de Charlie Chaplin. Bon, ah, là, oui. J'ai oublié son nom. Là. Bon, là, j'ai l'air tweet
petit
un peu.
Petit-fils Chaplin.
Petit-fils Chaplin. Et il présentait Raoul à la Tohu. C'était un spectacle merveilleux.
Mais... ils veulent refaire revivre que personne n'oublie les œuvres. Et
ben
du
oui,
coup,
ben oui.
C'est ce que propose donc le petit-fils de Picasso et c'est Olivier, non c'est, j'ai perdu le nom de la personne, c'est Samuel Pradier pardon, qui nous en parle dans le journal du 24 heures. Mmh. Répondant à la commande de la chaîne hôtelière française, Olivier Windmaier Picasso a eu l'idée de concentrer l'exposition sur les ateliers de ses grands artistes contemporains. Nous avons tous une intimité dans notre maison, a-t-il indiqué en entrevue. Les artistes ont une pièce en plus, qui est l'atelier dans lequel ils travaillent et où ils sont souvent seuls. Chacune des photos révèle une partie de leur façon de fonctionner. Il y a une magie qui s'opère dans ces lieux. Il y a les artistes qui laissent entrer le photographe, ceux qui se mettent en scène, ceux qui sont un peu timides et ceux qui continuent à garder leur mystère. Après avoir sélectionné une centaine de clichés, il a fait la sélection de la trentaine qui sera exposée. On a choisi non seulement des photos fortes, mais aussi des photos qui fonctionnaient les unes avec les autres. Il fallait qu'elles soient complémentaires et différentes. Pablo Picasso a souvent été photographié dans son atelier, mais aussi lors de réunions familiales. Olivier Windmaier Picasso a une réaction double lorsqu'il regarde les clichés montrant son grand-père. Je n'ai pas de souvenir parce que j'étais trop petit. Ce qui me frappe quand je vois une photo de lui, c'est la ressemblance frappante qu'il a avec ses enfants, que ce soit ma mère, Maya, ma tante Paloma ou avec mon oncle Claude. J'ai une proximité que personne d'autre ne peut avoir. Ma mère parle de mon grand-père en disant « papa ». Peu dans le monde peuvent appeler Pablo Picasso « papa ». J'ai toujours cette proximité génétique, cet homme m'appartient donc un peu. Mais selon lui, Picasso est surtout un artiste extraordinaire qui a marqué autant le milieu de l'art que le milieu public et son œuvre appartient désormais à tout le monde et reste toujours actuelle. L'œuvre est en vie tant qu'elle a un spectateur. L'émotion qu'ont pu vivre les gens il y a 60 ans, il y a 30 ans ou aujourd'hui est possiblement la même. Pablo Picasso a aussi eu une chance extraordinaire car à chacune de ses rencontres dans sa vie privée correspond à une évolution de son art. C'est un artiste tellement complet qu'il rencontre tous les publics. L'exposition Weaveld a déjà été accrochée à l'hôtel Sofitel New York avant d'arriver à Montréal où elle sera visible jusqu'au 27 mars. Elle s'installera ensuite à l'hôtel Sofitel de Los Angeles de Beverly Hills d'avril à juin.
Alors, juste rapidement, moi, j'ose vous faire part du fait que sur le web, est-ce que vous connaissez le magazine BuzzFeed?
Non, pas du tout.
Donc, en gros, c'est un collectif un peu de style blog avec des articles énumérés par points et puis... on reste dans la gourmandise, on reste dans la nourriture.
Dans ton domaine.
Dans mon domaine. Et puis, il y a eu une étude de comparaison entre le Kraft Dinner canadien et américain. Okay. Alors, les gens, il y avait les deux bols de Kraft Dinner, un à côté de l'autre, okay. Et devaient comparer les goûts. Et ça... En bref, les Canadiens ont tout de suite reconnu leur Kraft Dinner et les Américains, pas nécessairement leur mac and cheese, parce que là-bas, le Kraft Dinner s'appelle mac and cheese.
Ben, dans une autre ordre d'idée, à la Joliette, vous pouvez patiner la rivière là-bas, la rivière L'Assomption. C'est ouvert le 6, 7 et 8 février. Après ça, c'est dans le cadre, en fait, du Festiglas. Ce sont les dates du festival. Le site s'anime durant ce festival. Nous suggérons des... parmi la programmation, les contes autour du feu, les batailles de boules de neige, il y a une fête familiale, c'est accessible depuis la rivière Bosco. Sur place, il y a aussi des carrés de neige, des murs d'escalade, des feux d'artifice et de l'animation. L'accès à la patinoire reste gratuit pendant le festival.
La vague anglaise et punk conquit la métropole ce soir avec l'arrivée du chanteur Billy Idol, fondateur du groupe britannique Génération X. Les fans peuvent s'attendre à la prestation de plusieurs de ses grands succès à la fin des années 80 et 90 comme White Wedding, Rebel Yell, Flesh for Fantasy et d'autres. La vedette a marqué le monde de la musique hard rock et punk aux États-Unis et a vendu en carrière solo plus de 3 millions d'albums. Pour une soirée disjonctée et anticonformiste, c'est au Métropolis que la vedette rock vous attend. Eh bien, je crois que c'est l'heure maintenant de nous dire au revoir et à la semaine prochaine. On va remercier Rémi à la régie qui nous fait toujours découvrir de super morceaux. Geneviève, Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on se donne rendez-vous vendredi
prochain.